Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast de Diabète 66. Le podcast de Diabète 66, c'est le podcast hebdomadaire qui décrypte avec vous l'actualité sur le diabète. Ce podcast vous est présenté par l'équipe médicale du service endocrinologie du centre hospitalier de Perpignan, dirigé par le docteur Muriel Bénichou, accompagné par les docteurs Amina Radaoui, docteur Nelly Montignera et docteur Céline Hyde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Muriel Bénichou, chef du service d'endocrinologie à l'hôpital de Perpignan. Bienvenue dans cette dernière émission de la saison consacrée aux questions libres autour du diabète. Donc ces émissions vont s'interrompre durant l'été, mais vous pourrez nous retrouver en direct sur notre site internet Diabète 66 pour des articles médicaux et paramédicaux, ainsi que pour les recettes concoctées par nos diététiciennes. Les émissions reprendront fin août, début septembre, mais nous vous tiendrons de toute façon informés de la date exacte de reprise. Donc, comme chaque semaine, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées durant la semaine pendant 15 minutes avant de répondre en direct à vos questions durant les 15 dernières minutes. Première question posée par Monique qui me demandait comment fait-on le diagnostic du diabète gestationnel. Donc le diabète gestationnel, je vous le rappelle, est un diabète qui apparaît pendant la grossesse, généralement entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée, donc à la fin du deuxième trimestre de grossesse, et qui disparaît en général à l'accouchement. Donc le dépistage se fait par la réalisation d'un test qu'on appelle l'AGPO à 75 g de glucose, c'est-à-dire qu'on fait prendre 75 g de sucre à la femme enceinte et on dose sa glycémie d'abord à jeun, puis après une heure de prise de sucre et à deux heures de la prise de ce sucre. Il existe des valeurs seuil qui sont de 0,92 à jeun, 1,80 g à 1 heure et 1,53 g à 2 heures. Donc si l'une de ces valeurs ou plus dépasse les valeurs seuil que je viens de vous indiquer, eh bien on parle de diabète gestationnel qui se traite d'abord par des règles hygiéno-diététiques et si nécessaire, c'est-à-dire si les objectifs ne sont pas respectés, par de l'insuline. Donc 3 à 6 mois après l'accouchement, on fait quand même un test pour vérifier que le diabète a bien disparu. Toujours ce test d'AGPO à 75 g de glucose 3 à 6 mois après l'accouchement. Deuxième question de Denise qui me demandait si le diabète était un facteur de risque de certains cancers et un facteur de risque de maladies auto-immunes. Donc concernant les cancers, non, le diabète n'est pas un facteur de risque direct de l'apparition de cancers. Néanmoins, le diabète de type 2, lorsqu'il est déséquilibré et lorsqu'il survient souvent chez une personne obèse, eh bien, peut favoriser l'apparition d'une maladie du foie qu'on appelle la stéatose hépatique, qui est une sorte de foie gras, hein, qui peut évoluer vers des lésions plus sévères de cirrhose, qui peut faire le lit de ce qu'on appelle le cancer du foie. Concernant les maladies auto-immunes, donc le diabète n'est pas un facteur de risque d'apparition de maladies auto-immunes, mais peut être associé, notamment le diabète de type 1, qui est lui-même une maladie auto-immune, eh bien, peut être associé à d'autres maladies auto-immunes, comme par exemple le vitiligo. Troisième question de Valérie qui me demandait s'il existait un lien entre microbiote intestinal et diabète. Donc le microbiote intestinal, je vous le rappelle, c'est les milliards de micro-organismes, donc notamment de bactéries, qui peuplent notre intestin et qui a un certain nombre de fonctions régulatrices. Donc lorsqu'il y a des modifications de ce microbiote, soit dans sa composition, soit dans son fonctionnement, ce qu'on appelle une dysbiose, eh bien cela peut être associé effectivement à l'augmentation de la prévalence de certaines maladies comme l'obésité et donc également le diabète. Néanmoins, on ne sait pas si c'est une cause ou une conséquence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si cette modification du microbiote est la cause entre dans la, enfin favoriser l'apparition du diabète, ou si lorsqu'il y a un diabète, eh bien il y a une modification de ce microbiote intestinal. Quatrième question de Paul qui demande si le diabète de type 2 peut avoir une origine génétique. Donc il existe effectivement une prédisposition génétique dans le diabète de type 2, peut-être même plus importante que celle du diabète de type 1. Et donc il est classique de retrouver chez un diabétique, dans sa fratrie ou chez ses parents, l'existence donc d'un diabète. Cette prédisposition génétique n'est pas liée à un seul gène, mais à plusieurs centaines de gènes, dont certains ne sont même pas encore totalement identifiés. Cinquième question, de Fatima qui me demande s'il y a des symptômes spécifiques à une hyperglycémie. Alors contrairement à l'hypoglycémie qui généralement est facilement repérable par le patient, l'hyperglycémie peut être totalement silencieuse, voire même être vécue par certains patients diabétiques comme plutôt agréable. Donc, pas de symptômes spécifiques. Il peut néanmoins y avoir des symptômes comme une sensation de bouche pâteuse, une sensation de soif intense, une envie d'uriner. Comme je vous l'ai dit, cela n'est pas spécifique à l'hyperglycémie. Sixième question de Karine. Qui me demande si un patient diabétique de type 2 sous traitement oral doit avoir un lecteur de glycémie pour réaliser une autosurveillance glycémique ou si la réalisation d'une hémoglobine glyquée trimestrielle est suffisante. Donc chez un patient diabétique de type 2, l'autosurveillance glycémique n'est indiquée que si le patient prend des médicaments à risque hypoglycémique. Donc essentiellement, ce qu'on appelle les sulfamides hypoglycémiants, c'est-à-dire le glycazide ou diamicron, ou le glimépiride ou amarel, ou les apparentés, c'est-à-dire les glinides, donc le répaglinide ou Novonorm. Donc dans ces cas-là, on conseille aux patients de se surveiller notamment en fin d'après-midi, car le risque de survenue d'hypoglycémie est maximal en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, il faut vérifier que la glycémie n'est pas au-dessous de 0,80 g. Pour tous les autres diabétiques qui prennent des médicaments qui ne sont pas des sulfamides hypoglycémiens ou des glinides, il n'y a pas d'indication absolue à se surveiller. Et une hémoglobine glyquée trimestrielle semble suffisante chez ces patients. Septième question de Marc qui dit qu'il a été diagnostiqué diabétique de type 2 il y a 6 mois. Son médecin l'a mis sous metformine et il dit que ses glycémies sous metformine se situent à jeun entre 1,18 g et 1,26 g. Il demande si son diabète est réversible ou s'il est condamné à prendre des médicaments à vie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le diabète est diagnostiqué, c'est que déjà 50% du pancréas ne fonctionne plus. Donc c'est une situation qui est définitive et donc qui n'est pas réversible. Ce qui est réversible, en revanche, c'est le pré-diabète, c'est-à-dire lorsque la glycémie se situe entre 1,10 g et 1,25 g en dehors de tout traitement. Mais une fois que le diabète a été diagnostiqué et que vous prenez un traitement, même si votre glycémie à jeun est correcte, eh bien, il faudra continuer à prendre ce médicament. Le diabète de type 2 nécessite, comme vous le savez, des règles hygiénodiététiques, des médicaments qui vont aider justement les 50% de pancréas restants à continuer à fonctionner le plus longtemps possible. Mais généralement, au bout de 15 à 20 ans d'évolution, il est nécessaire que le patient passe sous insuline. Huitième question de Lionel qui demande quelles sont les mesures diététiques chez un patient diabétique de type 2 en dialyse péritonéale, notamment concernant l'apport maximum en glucides et en protéines. Alors concernant les règles diététiques, enfin, notamment l'apport en glucides, il n'y a pas de règles spécifiques chez le patient en dialyse péritonéale. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la poche de dialysa contient des glucides et que donc cela peut entraîner certaines modifications de glycémie qui peuvent nous amener à des ajustements de traitement. Mais pas de mesures spécifiques concernant l'apport en glucides. Concernant l'apport en protéines, il faut savoir que lorsqu'un patient dialyse, notamment en dialyse péritonéale ou même en hémodialyse, il y a une perte de protéines qui est plus importante. Donc, en général, on conseille un apport de 1,2 g par kilo et par jour. C'est-à-dire que pour un patient qui pèse 70 kg, eh bien, il faudra qu'il prenne environ 85 g de protéines par jour. Neuvième question d'Alain qui dit qu'il a 65 ans, qu'il est diabétique de type 2 depuis 5 ans, qu'il est également hypertendu et obèse. Il dit qu'il est sous metformine 1000, 2 par jour, avec une dernière hémoglobine glycée au-dessus de l'objectif, puisqu'il est à 7,8%. Et il présente également au niveau des urines une microalbuminurie au-dessus des valeurs souhaitées, puisque sa microalbuminurie sur les urines de 24 heures est à 80 mg par 24 heures, alors que normalement, elle doit se situer au-dessous de 20 ou 30 mg par 24 heures. Donc, il dit que son médecin lui a proposé de le mettre sous Trulicity, mais qu'il n'a pas supporté ce traitement en raison de la survenue de vomissements importants. Et il demande ce qu'on peut lui proposer, en sachant qu'il a peur également de continuer à prendre du poids. Donc ce qui est sûr, Alain, c'est que compte tenu de votre hémoglobine glycée, il va falloir renforcer le traitement pour ramener votre hémoglobine glycée à l'objectif. Alors dans la mesure où vous êtes en excès de poids et qu'en plus on peut vous considérer comme à très haut risque cardiovasculaire, puisque en plus du diabète, vous avez quand même de l'hypertension, vous avez de l'obésité, vous avez une microalbuminurie qui est positive, et bien dans ce contexte-là, votre profil m'inciterait à vous conseiller en association avec la metformine les nouveaux médicaments, c'est-à-dire les inhibiteurs du SGLT2, à savoir soit le Forxiga, soit le Jardiance, qui, en plus de leur effet métabolique, donc sur la diminution de l'hémoglobine glycée et sur la perte de poids, ont également un effet de protection cardiovasculaire et rénale. Donc ils jouent non seulement sur le diabète, mais ils jouent également sur le poids, un petit peu sur la tension artérielle également, et ils jouent surtout sur les complications potentielles du diabète, notamment les complications cardiovasculaires et rénales. Donc lorsque l'on sait que la première cause de mortalité chez un patient diabétique, c'est les causes cardiovasculaires, eh bien il est particulièrement intéressant de disposer dans l'arsenal thérapeutique de ce type de molécules. Donc je vous conseillerais soit le Jardiance 10 mg, soit le Forxiga 10 mg. Dixième question d'Afid qui demande, en cas d'insuffisance cardiaque, est-ce qu'il existe des contre-indications de certains antidiabétiques ? Donc, lorsqu'il existe une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection inférieure à 40%, en général, on a tendance à contre-indiquer la metformine en raison du risque de ce qu'on appelle l'acidose lactique sous metformine. Donc, un patient insuffisant cardiaque avec une fraction d'éjection au-dessous de 40%, il vaut mieux éviter la metformine. Alors, j'aurais tendance, pour répondre à votre question, qu'il y a en revanche, dans votre cas, des médicaments fortement indiqués, et je pense en particulier aux inhibiteurs du SGLT2, donc ce dont je parlais tout à l'heure, ce dont je viens de parler, le Forxiga ou le Jardiance, puisque ces médicaments ont montré dans les études une très nette diminution du risque cardiovasculaire et notamment du risque d'insuffisance cardiaque et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, avec une diminution de l'ordre de 30 à 35% du risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et cet effet sur l'insuffisance cardiaque vaut aussi chez les patients qui ne sont pas diabétiques. Et d'ailleurs, le Forxiga a l'indication actuellement chez le diabétique insuffisant cardiaque, mais également chez le patient insuffisant cardiaque non diabétique, de par donc cet effet très important de protection donc, et de diminution du risque cardiovasculaire et notamment d'insuffisance cardiaque. Onzième question de Jessica qui dit qu'elle est diabétique sous un schéma de type basal bolus, c'est-à-dire qu'elle a des rapides au moment de chaque repas et une insuline lente le soir. Et elle doit subir prochainement une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et elle demande ce qu'elle doit faire la veille de l'intervention. Donc la veille de l'intervention, si vous mangez normalement, il n'y aura aucune adaptation particulière à faire, c'est-à-dire que vous ferez votre dose de rapide et de lente comme enfin, vos doses habituelles. C'est le matin de l'intervention, dans la mesure où en général on est à jeun, eh bien il ne faut pas faire la rapide sous peine de risquer de faire une hypoglycémie. Donc, 12e question de Marion, qui est diabétique de type 1 sous pompe à insuline. Et elle dit qu'elle souhaiterait se déconnecter de sa pompe lorsqu'elle se baigne. Elle demande quelle est la durée maximale de déconnexion et pourquoi il existe une durée maximale de déconnexion. Donc, il faut savoir que, effectivement, lorsque l'on a une pompe à insuline, si ce n'est pas une pompe patch, eh bien, si c'est une pompe avec cathéter, donc une pompe filaire, on peut effectivement se déconnecter de sa pompe dans certaines situations, et notamment lorsque l'on va se baigner. Même si le matériel est réputé étanche, c'est vrai que dans certains cas, on a tendance à conseiller quand même de l'enlever. Cette déconnexion ne doit pas excéder 2 heures, tout simplement parce que dans la pompe, il n'y a que de l'insuline rapide ou ultra rapide, et que donc il y a un risque, si on excède 2 heures, de voir apparaître ce qu'on appelle des corps cétoniques, et donc un risque de décompensation acido-cétosique. Donc voilà pourquoi cette durée est fixée à 2 heures. 13e question de Stony, qui demande pourquoi on appelle la nouvelle pompe 780G le pancréas artificiel, et il demande ce que ça apporte par rapport aux pompes classiques. Donc ce qu'on appelle en fait pancréas artificiel, ce n'est pas à proprement parler la pompe 780G, c'est le dispositif Minimed 780G qui est constitué effectivement de la pompe 780G, mais également d'un capteur de glycémie qu'on appelle le Sensor 3. Donc ce capteur Sensor 3 va mesurer en continu le taux de glucose sous la peau et le communiquer toutes les 5 minutes à la pompe 780G qui héberge en fait une sorte de cerveau qu'on appelle un algorithme, qui va analyser les données du capteur Sensor 3 et adapter les doses d'insuline et le débit de base, et éventuellement envoyer également ce qu'on appelle des microbolus pour permettre de maintenir le taux de glycémie du patient dans l'objectif souhaité. Donc, à la différence des autres pompes, ce système fonctionne de manière automatique, en tout cas la nuit. Alors après, le terme de pancréas artificiel ou de boucle fermée est quand même un abus de langage, dans la mesure où le patient a quand même à intervenir dans 2 situations. Au moment des repas, où il doit quand même renseigner la pompe sur la quantité de glucides qu'il va manger pour que la pompe puisse envoyer le bolus adéquat. Et au moment de l'activité physique, parce qu'il y a un risque hypoglycémique plus important, et donc le patient doit à ce moment-là se mettre en objectif un peu plus haut, c'est-à-dire à 1,50 g au lieu du 1 g ou 1,10 g ou 1,20 g qu'on fixe habituellement en dehors de toute activité physique. Voilà. Donc ce que ça apporte par rapport aux autres pompes, c'est un fonctionnement quasi automatique en dehors de ces situations que je viens de vous dire, avec une efficacité qui est très spectaculaire, puisque on a une diminution significative de l'hémoglobine glyquée, une augmentation du temps passé dans la cible et une diminution des hypoglycémies. Donc vraiment une efficacité très intéressante. Nous, on a actuellement une 30aine de patients sous pancréas artificiel et on a des résultats vraiment extrêmement encourageants. Voilà, donc je suis arrivée au bout des questions qui ont été posées durant la semaine. Je vais maintenant répondre aux questions que vous m'avez posées en direct. Donc un monsieur qui me demande si un patient diabétique peut faire le vaccin anti-Covid. Donc non seulement il peut le faire, mais il doit, je dirais, le faire. C'est fortement recommandé dans la mesure où on sait que le diabète est associé à un risque de forme grave de Covid. Donc il est particulièrement important dans la population générale que les patients se vaccinent, mais tout particulièrement dans cette population particulièrement à risque de forme sévère que sont les patients diabétiques. Alors, Fatima dit que son hémoglobine glyquée est normale, mais que sa glycémie est irrégulière et elle comprend pas pourquoi. Alors, c'est très intéressant, Fatima, ce que vous dites, parce que effectivement, l'hémoglobine glyquée, ça a longtemps été notre grande référence pour juger de l'équilibre glycémique d'un patient diabétique. Et comme vous le savez, on fixe en général à 7% l'objectif. Néanmoins, ce n'est qu'une moyenne. Et donc, une moyenne, ça ne tient pas compte des alternances d'hypo et d'hyperglycémie. Parce qu'effectivement, si vous avez des alternances importantes d'hypo et puis après d'hyper, vous pouvez avoir une hémoglobine glyquée satisfaisante et pourtant avoir un équilibre instable. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant, on a tendance à regarder de nouveaux indicateurs de l'équilibre glycémique qui sont notamment le temps passé dans la cible, le temps passé au-dessous de la cible et le temps passé au-dessus de la cible. Et l'objectif qu'on se fixe au-delà d'une hémoglobine glyquée inférieure à 7%, c'est un temps passé dans la cible supérieur ou égal à 70%, avec moins de 5% d'hypoglycémie, dont moins de 1% d'hypoglycémie sévère, et moins de 25% de temps passé au-dessus de la cible. Alors, une question de Pierre qui me demande si le Forxiga doit être déconseillé chez un patient diabétique de type 2 qui ne souhaite pas maigrir. Alors, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, le Forxiga, c'est donc le nouvel inhibiteur des SGLT2 qui est maintenant commercialisé en France depuis avril 2020. Donc ce médicament a des effets métaboliques. Ces effets métaboliques, c'est une perte en moyenne une baisse en moyenne de moins 0,8 points d'hémoglobine glyquée. On a également un effet sur la tension artérielle d'environ moins 0,5 points sur la tension artérielle systolique et une perte de poids d'environ 2,5 kg, 3 kg chez les patients diabétiques. Mais comme je vous l'ai dit, il a également des effets de protection cardiovasculaire et rénale. Donc, pour un patient diabétique de type 2 ne souhaite pas perdre de poids mais qui aurait un risque cardiovasculaire ou rénal important, je dirais que le rapport bénéfice-risque serait quand même en faveur de la prescription de cette molécule. Alors, Fabrice demande si je connais le dispositif Diabeloop. Donc oui, je le connais. Donc le dispositif Diabeloop, ça fait partie donc des trois dispositifs qui ont actuellement le marquage CE et qui devraient être donc de pancréas artificiel hein, et qui devraient être normalement remboursés dans le peut-être début 2022. Le système Diabeloop, c'est un système donc de pancréas artificiel qui est bien connu en France puisqu'il a été développé par des chercheurs français. Il est constitué d'une pompe qu'on appelle la pompe Kaleido, qui est une sorte de pompe patch avec un tout petit cathéter en tout cas, associé à un capteur de glycémie qu'on appelle le capteur Dexcom G6, qui a l'avantage par rapport au capteur sensor 3 dont je vous parlais tout à l'heure dans le dispositif 780G, eh bien de ne pas avoir à faire de calibration, donc vous n'avez pas besoin de faire de glycémie capillaire, donc ça c'est quand même un avantage. Et puis il y a un troisième élément qui est l'algorithme, mais malheureusement cet algorithme n'est pas contenu dans la pompe, elle est dans un troisième élément qui est généralement un smartphone ou une tablette. Voilà. Donc ce système Diabeloop a été étudié donc à la fois chez l'adulte et chez l'enfant avec des résultats très intéressants, à peu près du même ordre que ceux du dispositif 780G ou de l'autre dispositif qui a le marquage CE, à savoir le Control IQ. C'est un dispositif, comme je vous l'ai dit, qui devrait pouvoir bénéficier dans quelques mois d'un remboursement en France. Alors, Yaya dit que son hémoglobine glyquée est à 6,6%. Elle demande si c'est vraiment utile de changer de la dose de metformine de 500 à 850. Donc, si vous avez un diabète qui évolue depuis moins de 10 ans, donc un diabète relativement récent, que vous n'avez pas de complications ou de comorbidités sévères, l'objectif est plutôt une hémoglobine glyquée à 6,5 qu'à 7%. Donc, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'à 6,6, vous êtes légèrement au-dessus. Donc, il pourrait effectivement être intéressant, si par ailleurs vous avez optimisé les règles hygiénodiététiques, d'augmenter votre metformine, effectivement, de 500 à 850. Alors, une question de Fabien qui demande pourquoi il n'est pas possible de pratiquer une greffe d'îlot pancréatique chez un jeune patient diabétique de type 1 chez lequel on vient de diagnostiquer un diabète de type 1 pour éviter un traitement à vie et, et des complications. Alors, malheureusement, la greffe d'îlot, effectivement, c'est un traitement qui est particulièrement intéressant et qui a beaucoup évolué en France, puisqu'il est passé dans les... jusqu'à présent, on ne pouvait le faire que dans le cadre de protocoles de recherche clinique, et il est passé les actes communs depuis peu, ce qui permet, effectivement, de pouvoir le proposer à un certain nombre de patients. Néanmoins, ce n'est qu'un traitement de dernière intention lorsque l'on a... un diabète qui reste déséquilibré ou bien lorsque l'on doit bénéficier également d'une greffe rénale. Pourquoi ? Parce qu'on manque cruellement, pour deux raisons. D'abord parce qu'on manque cruellement de donneurs, puisque pour une greffe d'îlot, il faut en moyenne 2 pancréas, ce qui vous donne une idée du nombre de pancréas dont on doit bénéficier pour permettre ce type d'acte. Donc on manque cruellement de donneurs. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on ne le réserve qu'à des patients que l'on n'a pas pu équilibrer autrement. Et l'autre raison, c'est que c'est un traitement qui nécessite un traitement anti-rejet. Donc un traitement immunosuppresseur qui n'est pas évidemment dénué de tout risque. Donc pour cette raison, on ne va le proposer que si vraiment on a un diabète qui reste totalement instable et qui met en jeu même le pronostic vital une fois que toutes les autres techniques ont été essayées, ou bien chez un patient chez lequel on envisage de faire une greffe rénale, puisque à ce moment-là, il prendra de toute façon un traitement anti-rejet, et que donc c'est sûrement le bon moment de lui proposer soit une transplantation pancréatique, donc une greffe de pancréas, soit une greffe d'îlot. Alors, une autre question concernant donc, le pancréas artificiel, les boucles fermées. Quelqu'un me demande où on en est et quand on peut espérer un remboursement. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 dispositifs qui sont particulièrement avancés en France. Le dispositif Minimed 780G, donc de Medtronic. Le dispositif Control IQ. Et puis le dispositif Diabeloop. Donc, ces 3 dispositifs disposent du marquage CE pour l'adulte, une indication donc pour l'adulte, et pour l'enfant, sauf pour le système Diabeloop qui a pris un peu de retard. Donc le système Diabeloop, pour l'instant, on ne pourra le prescrire que pour les patients de plus de 18 ans parce que les études pédiatriques ont pris un peu de retard. Voilà. Pour ce qui est du remboursement, comme je vous le disais, il devrait arriver, on l'espère, fin 2021, début 2022, en tout cas pour certains dispositifs. Zaya pose une question, elle demande si l'hypothyroïdie est en relation avec le diabète. Alors c'est un peu la même question que celle qui m'avait été posée durant la semaine, à savoir est-ce qu'il peut exister un lien entre diabète et maladie auto-immune. Comme je vous l'ai dit, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, donc elle peut être associée à d'autres maladies auto-immunes sans en être pour autant la cause, hein, et elle peut être associée notamment aux hypothyroïdies auto-immunes, ce qu'on appelle la thyroïdite de Hashimoto. Voilà, donc là, je crois que... Malheureusement, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais je vois qu'on arrive au terme de ce live. Voilà, donc il me reste à vous souhaiter un bel été. Et comme je vous l'ai dit, nous vous retrouverons dès la rentrée pour de nouvelles aventures. Au revoir.
Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant toute cette écoute. Si ce podcast vous a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Suivez-nous sur notre page Facebook Diabète 66 en posant directement vos questions qui seront abordées dans nos prochaines émissions. Rejoignez-nous également sur notre groupe Facebook Diabétique, le groupe de discussion, pour échanger avec nos 9000 membres. Retrouvez-nous également sur Instagram et Twitter. Merci à toutes et tous pour votre écoute et à la semaine prochaine.